Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité. Par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales. Et son complice, Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Éric.
Renaud, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons évoquer, tu en avais parlé la dernière fois, le coût financier de la crise, c'est-à-dire que jusqu'à présent, dans cette dernière partie de nos émissions, nous avions évoqué le coût humain et nous avons parlé en particularité du caractère précaire de certains emplois particulièrement exposés à la crise de la Covid-19. Et nous avions parlé des situations de discrimination face aux salaires. Nous avons parlé, bien sûr, des professions les plus exposées. Nous avons parlé des femmes. Nous avons parlé aussi des discriminations ethniques. Et puis, nous amorçons cette fois-ci, avec l'émission d'aujourd'hui, une transition vers le coût économique, le coût financier de la crise. Qui va payer cette crise? Renaud, est-ce que nous devons nous attendre à avoir de nouvelles politiques d'austérité? Tu semblais dire que oui la dernière fois. Et dans ce cas-là, est-ce que finalement ça ne va pas encore davantage précariser toutes ces professions?
Oui, tout à fait. Alors, évidemment, il est extrêmement difficile de distinguer d'un côté le côté purement humain, d'un côté purement financier, tellement les deux sont imbriqués dans nos sociétés de consommation de masse, puisque bien évidemment, qui dit coût financier dit qu'une partie de la population risque de se retrouver sous le seuil de pauvreté, et tomber sous le seuil de pauvreté a bien évidemment des conséquences humaines en termes d'accès aux soins, en termes d'accès à un logement décent, en termes de capacité, lorsque on vit en couple ou avec des enfants, à pouvoir avoir un environnement de vie relativement serein. Donc bien évidemment que le coût financier dont nous allons parler aujourd'hui va avoir des répercussions à son tour sur la dimension humaine et sociale de l'existence. Donc il est difficile en fait de faire, on peut pas être manichéen sur ce plan-là. Alors évidemment, on a parlé la semaine dernière des professions les plus exposées, hein, les caissiers, les éboueurs, les personnels soignants. Alors il faut pas oublier que cette crise économique, elle touche beaucoup de personnes, elle touche aussi des indépendants. Pour l'instant, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé des indépendants, mais les salariés, pas tous, comme on l'a vu, avec les intermittents du spectacle, pour certains, avec les salariés précaires, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, mais les indépendants ont aussi été particulièrement touchés par cette crise, puisque leur revenu est intégralement dépendant de leur activité.
Oui, et puis il faut dire aussi qu'ils n'ont pas touché le chômage partiel qu'ont touché les salariés.
Non, alors quand même, malgré tout, le gouvernement a mis en place un système qui leur permettait de recevoir une aide de 1 500 € par mois. Alors c'était conditionné, donc il y avait tout un ensemble de critères à respecter, ce qui fait que tous les indépendants n'y ont pas eu droit. Mais il faut savoir que c'est un leitmotiv de ce gouvernement d'essayer justement de proposer un filet de sécurité aux indépendants. Je signale qu'Emmanuel Macron, en 2017, dans son programme, avait introduit l'idée d'un chômage pour les indépendants. Actuellement, les indépendants n'ont pas le droit au chômage. Alors, dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage qui devait entrer en vigueur le 1er avril, eh bien, il y avait un volet où les indépendants, sous certaines conditions, une fois de plus, pouvaient avoir droit à une certaine forme de chômage.
D'accord. Alors, 1 500 €, c'est quand même un petit peu l'aumône, je dirais, par rapport aux sommes considérables que certains ont pu perdre. Je pense en particulier, bon, je ne sais pas, aux restaurateurs, aux propriétaires de cafés, aux indépendants qui tiennent des boutiques, donc tout le petit commerce a été particulièrement touché par cette crise de la Covid-19.
Oui, tout à fait. Et l'idée de cette aide, évidemment, n'était pas de venir compenser intégralement les pertes connues par les indépendants en question. C'était juste de leur donner l'équivalent d'une sorte de RSA, alors un RSA trois fois supérieur au RSA, bien évidemment, mais une sorte de minimum pour pouvoir, malgré tout, continuer à faire face aux factures minimales durant cette période.
Alors, je fais juste une petite parenthèse ici, Renaud, parce que nous nous proposons peut-être d'ici quelques semaines d'évoquer aussi cette question du revenu minimum, parce que à une certaine époque, et bien avant la crise sanitaire, il a été question, en particulier lors de la dernière campagne présidentielle, d'un revenu universel. Peut-être que nous pourrons faire un lien entre ce que tu dis aujourd'hui et cette question-là dans une émission ultérieure.
Une émission entière sur le revenu universel, tellement, si l'on veut parler d'utopie et si l'on veut parler d'un monde d'après qui soit différent du monde d'avant, le revenu universel sera sans doute un pilier absolument central de cette nouvelle société à venir. Alors, aujourd'hui, ce que je me propose, c'est, enfin, nous allions faire quelques émissions autour de cette notion justement d'inégalité salariale entre les riches et les pauvres. La question de la pauvreté est relativement bien documentée en France, celle de la richesse beaucoup moins. Sauf que, cette semaine, deux études sont parues sur les riches en France, une de l'INSEE et une autre de l'Observatoire des inégalités. Donc je me propose d'y revenir la semaine prochaine, parler des riches, et aujourd'hui de me concentrer sur qui sont les pauvres, qu'est-ce que c'est qu'être pauvre dans la société française d'aujourd'hui, mettre au-delà des données chiffrées aussi des visages derrière la pauvreté. Alors, qui sont les pauvres ? Répondre à cette question n'est pas simple, parce qu'évidemment, cela implique que l'on définisse ce qu'est être pauvre. Finalement, la notion de pauvreté, elle est extrêmement relative. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas les moyens d'avoir un smartphone va se considérer comme pauvre, quelqu'un qui n'a pas les moyens d'avoir une voiture d'occasion va se considérer comme pauvre, et sans doute à juste raison, parce qu'il vit dans un monde où avoir un smartphone ou avoir une voiture d'occasion font partie des objets de consommation relativement courantes. Mais pour autant, est-ce qu'on peut considérer que sous prétexte qu'on n'a pas un smartphone, on est pauvre? C'est compliqué aussi, alors, parce que dans ces conditions, on s'arrête où?
Ouais, mais mes souvenirs, Renaud, des émissions que nous avons enregistrées il y a quelques années, m'évoquent le fait qu'il existe un indicateur qui s'appelle le seuil de pauvreté et qui est différent selon les États. C'est-à-dire le seuil de pauvreté en France n'est évidemment pas le même que celui qu'on applique peut-être au Brésil ou en Afrique subsaharienne. Est-ce que tu confirmes ça?
Tu as de bons souvenirs, Eric. Donc, pour aller à l'essentiel, pour mesurer la pauvreté, il y a deux grandes manières de faire. La première, c'est ce qu'on appelle la pauvreté absolue. Pauvreté absolue, on va considérer que pour survivre, donc juste pour survivre, c'est-à-dire pour rester en vie d'un jour sur l'autre, il faut disposer d'un minimum de calories par jour, il faut disposer d'un toit, même le plus modeste qui soit, il faut dans l'année, par exemple dans un pays comme la France, pouvoir s'acheter deux pulls, trois t-shirts, une paire de chaussures pour pouvoir ne pas mourir de froid. Enfin, l'idée est que on va prendre le coût minimal pour pouvoir survivre, et cela va nous donner un montant minimal qu'il faut avoir par an.
D'accord.
Donc, on fait ça pour les pays pauvres. Donc, c'est comme ça quand tu as des statistiques, par exemple, du FMI ou de la Banque mondiale, qui t'expliquent que X% de la population mondiale vivent avec moins de $2 par jour ou $1 par jour. C'est ça. C'est le principe de la pauvreté absolue. Nous, dans les pays riches, nous avons décidé d'adopter une autre vision des choses qui est plus en correspondance avec ce que je disais juste avant, qui est la pauvreté relative. Donc la pauvreté relative consiste à dire qu'on est toujours pauvre par rapport à une norme de consommation d'une société dans laquelle on se trouve. Et ces normes de consommation, elles varient en fonction des sociétés. Donc évidemment, en France, la norme de consommation n'est pas la même qu'en Autriche, qui n'est pas la même qu'en Grèce, qui n'est pas la même qu'en Turquie. Et donc, pour ce faire, on va essayer de définir un panier de consommation de référence, et toute personne qui n'a pas les moyens financiers de pouvoir se le procurer, quand bien même il soit au-dessus du seuil de survie, est considéré comme pauvre.
D'accord.
Alors, le problème, c'est comment déterminer ce panier de consommation, parce que il va en falloir des débats pour savoir si on se met le smartphone, si on met l'abonnement avec 100 gigas par mois ou l'abonnement avec uniquement 3 gigas par mois. Donc, pour éviter ces discussions sans fin, d'une manière générale, les économistes dans le monde entier ont pris un principe qui est de considérer que l'on est pauvre à partir d'un critère simple, c'est lorsque l'on a un revenu qui est inférieur à un revenu de référence, puisqu'on part du principe qu'à partir du revenu, on peut consommer. Et donc, plutôt que d'essayer de déterminer la consommation exacte qui correspondrait au seuil de pauvreté, il est beaucoup plus facile de déterminer le revenu qui correspond au seuil de pauvreté. La règle générale, c'est de considérer que l'on est pauvre lorsque l'on a un revenu mensuel qui est inférieur à la moitié du revenu médian.
D'accord.
Ou inférieur à 60% du revenu médian. Ce sont les deux grands critères, sache-le, qui sont par convention retenus dans les pays
D'accord.
riches.
Alors, le revenu médian, si je me souviens bien, Renaud, c'est le revenu qui divise une population en deux. 50% de la population active gagne moins que ce revenu et 50% gagne plus. Alors, aujourd'hui, à combien s'élève le revenu médian en France ?
Alors, un ordre de grandeur, Eric ?
Écoute, je dirais qu'il s'élève à peu près 3500 euros.
Alors, beaucoup moins.
Beaucoup moins.
Alors, là, ça serait vraiment... En fait, on est loin. C'est aux alentours de 2000 euros net par mois.
D'accord.
Le
Effectivement.
Médian.
Donc, ouais. On est bien d'accord. Le revenu médian n'a rien à voir ni avec le SMIC, ni avec le revenu moyen.
Enfin, il a un vague rapport avec le revenu moyen. Parce que si le revenu médian nous dit que la moitié des gens gagnent moins et que l'autre moitié des gens gagnent plus, quand on va faire le revenu moyen, forcément, il y a de fortes chances qu'il soit relativement assez peu éloigné du revenu médian. Alors, il va pas être égal au revenu médian, parce que généralement, l'écart entre le revenu médian et le revenu maximum est largement supérieur à l'écart entre le revenu médian et le revenu minimum.
Donc en fait, le fait que ce revenu médian soit finalement assez bas montre que les très riches au sein de la population française ne sont pas très nombreux en réalité.
Ah bah, de toute façon, les très riches ne sont pas très nombreux, quand bien même le revenu médian serait plus élevé. Mmh. Imaginons que le revenu médian soit de 3500 euros. Je reprends ta proposition. Il n'empêcherait que 50% de la population française gagne plus que 3500 euros.
Oui.
Et si le revenu médian était à 10 000 euros, eh bien, il n'empêcherait que 50% de la population française. Donc, de toute façon, quel que soit le montant du revenu médian, des très riches, relativement parlant, tu en auras toujours. Et ils seront toujours en minorité par rapport, effectivement, à l'immense majorité. Tiens, je vais te poser une autre question, Eric.
Allons-y.
Et c'est une question piège, justement.
Ah.
Parce que généralement, quand je la pose, les gens ne m'apportent pas la bonne réponse.
Bon, alors tu sais, je sais que tu es friand des questions pièges, Renaud, et tu sais que je tombe assez souvent dedans. Donc alors, vas-y.
Oui, mais moi, j'adore poser des questions pièges parce que j'ai comme ça la sensation d'être intelligent. Puisque comme les gens se trompent, bah forcément, je me dis, mais quelle culture j'ai.
D'accord, donc, vas-y, Renaud, vas-y.
Donc j'aime bien.
Je suis prêt.
Les revenus. Juste avant, je fais un tout petit point de méthode. Les revenus, c'est large. On peut toucher des salaires, on peut toucher des revenus en tant qu'indépendant, on peut toucher des intérêts, on peut toucher des loyers, etc.
Tout à fait.
Là, maintenant, la question qui suit, je ne m'intéresse qu'aux salaires.
Mm-hmm.
Uniquement les salaires.
D'accord.
Donc, on a parlé du revenu médian. Est-ce que tu as une idée du salaire médian ? C'est-à-dire, si on prend que les salariés... Tiens, d'ailleurs, Eric, il y a combien de salariés à peu près en France actuellement ? Tu as une idée ou pas ?
Non, pas la moindre.
Allez, ça...
non, Renaud, là, je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas.
Ok, alors, donc je le dis, on est à peu près 65 millions de Français.
D'accord.
Sur les 65 millions de Français, il y a environ 25 millions de personnes qui ont un emploi. À peu près, à peu de choses près.
D'accord.
Ce qui est intéressant déjà, parce que ça veut dire que les 25 millions de personnes qui travaillent doivent, par leur seule activité économique, générer une richesse qui ensuite va être partagée parmi 65 millions de personnes.
Mmh.
J'aime bien rappeler ça, parce que moi, à chaque fois que je travaille, je me dis que je suis un bienfaiteur de l'humanité, parce que par mon travail, je contribue à faire vivre des gens qui ne travaillent pas, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils sont trop âgés, soit parce qu'ils ne sont pas en situation d'être actuellement sur le marché du travail, en situation d'activité. Sur ces 25 millions de personnes qui travaillent, il y a environ 22 millions de salariés. Donc ma question est la suivante, sur ces 22 millions de salariés, quel est le salaire en dessous duquel se trouvent les 11 millions de salariés qui, au total,
gagnent le moins,
reçoivent le salaire le plus faible ?
Alors, j'aurais tendance à dire que ce salaire médian est inférieur au revenu médian.
Eh bien, tu sais quoi, Eric ?
Mm-hmm.
Tu as entièrement raison.
Oui, parce que finalement,
tu as entièrement raison.
Je suis parti du constat que forcément, les salariés n'étaient pas les personnes les plus riches dans la population active, mais que c'était plutôt les gens qui touchaient d'autres types de revenus que des salaires.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Donc alors, maintenant, il faudrait que je fixe un chiffre, peut-être. Donc, oui. J'estimerais ça un peu supérieur au SMIC. Donc, peut-être à 1400 euros.
Alors, un peu plus quand même, c'est 1800 euros,
d'accord,
le salaire médian en France. Ce qui n'est pas énorme, hein, déjà. C'est-à-dire qu'il y a quand même 11 millions de salariés en France qui, chaque mois, net, touchent moins de 1800 euros
mensuels. Mais on est considéré pauvre que si on touche un revenu inférieur à 1200 euros. C'est bien ça, puisque là, c'est 60% du revenu médian.
Alors, ça dépend. Si on prend le seuil à 50%, en fait, on est un peu en dessous de 900 euros. Quand j'ai dit 2000 euros tout à l'heure, je fais des arrondis à chaque fois. Mm-hmm. Donc, c'est aux alentours de 900 euros si on prend le seuil à 50%. Et si on prend le seuil à 60%, tu as raison, c'est à peu près 1100 euros.
Alors, pourquoi deux seuils ?
Pour une raison purement historique. C'est qu'historiquement parlant, en France, nous avions l'habitude d'avoir le seuil à 50%. Et donc, depuis des décennies et des décennies, lorsque l'on comptabilisait le nombre de pauvres en France, enfin, le seuil de pauvreté, on prenait le seuil à 50%. Et puis, lorsque l'Union européenne a été créée, on a créé un institut statistique européen qui s'appelle Eurostat, l'équivalent de l'INSEE, mais au niveau européen. Et là, il a fallu trouver des conventions qui soient européennes. Or, tous les pays européens n'avaient pas le seuil à 50%.
D'accord.
Et donc, à la suite de longues discussions, il a été retenu au niveau européen le seuil à 60%. Et donc, depuis, ça fait une vingtaine d'années, l'INSEE calcule chaque année le seuil à 50 et le seuil à 60.
D'accord. Alors, maintenant, la question qui vient naturellement derrière, c'est à quoi il sert ce calcul du seuil de pauvreté ? Est-ce que finalement, on en fait quelque chose en France ?
Alors, il ne sert qu'à éclairer la décision publique, à rendre visible une réalité qui est conventionnelle. Rien de plus. Le seuil de pauvreté ne sert pas, par exemple, à donner accès automatiquement à des aides ou ne sert pas à générer automatiquement un ensemble de droits que n'auraient pas ceux qui ne sont pas pauvres. C'est purement statistique. C'est pour essayer de se représenter l'état de la pauvreté dans un pays. Mmh. Donc on est dans une pure convention. Alors, je t'ai dit, seuil de pauvreté en France, 900 euros par mois. Donc, quelle est la part de la population française, Eric, aujourd'hui, qui vit en dessous du seuil de pauvreté ?
Alors,
si on est
ça,
au seuil à 50%.
J'espère que c'est moins de 10%. Je dirais 8%.
Oui, Eric. Alors, je le dis à nos auditeurs, on n'avait pas prévu le coup avant. C'est exactement 8%.
Bon, ben voilà.
Voilà. Donc, bravo, Eric.
Merci.
Le seuil de pauvreté au seuil à 50%, évidemment, est de 8%. Donc, 8% de la population française, ce qui représente... Alors, j'avoue que je n'ai pas fait de calcul juste avant. Je dois avoir quelque part dans mes fichiers une statistique qui donne le nombre exact. Mais là, comme ça, spontanément, je ne retrouve pas. Bon, c'est pas très grave. Mais ça doit faire à peu près dans les 3,5 millions de Français, entre
d'accord,
3 et 3,5 millions.
Est-ce que ça comprend les personnes âgées, les enfants, c'est-à-dire toutes les personnes individuelles,
tout,
hein. D'accord.
Tout. Même des bébés, on peut mettre dedans des bébés. Mmh. Parce qu'une femme seule, par exemple, qui vit avec son bébé et qui est au RSA, elle est sous le seuil de pauvreté, mais son enfant, de facto, l'est aussi.
Bien sûr.
Donc,
bien sûr.
Alors, pour le seuil à 60%, le taux de pauvreté, lui, s'élève à 14%.
Mmh.
Parce que,
c'est
bien évidemment,
déjà beaucoup.
Toucher moins de 1100 euros par mois tu concerne un plus grand nombre de personnes dans la population française que le seuil à 50%.
D'accord. Dernière question, Renaud. Comment a évolué ce taux au cours des dernières années ? Et puis on en finira peut-être là-dessus.
Alors, et nous en finirons provisoirement, parce qu'il me restera plein de statistiques à donner la semaine prochaine sur qui sont les pauvres, quelles sont les grandes caractéristiques économiques et sociales de la pauvreté en France. Alors, ce seuil, pour aller vite, a baissé entre les 30 glorieuses et le milieu des années 2000. Depuis 2008, il est reparti à la hausse. Il a légèrement stagné depuis 3 ans, mais là, en 2020, on n'a pas encore les statistiques, mais on est sûr à 100% qu'il va très fortement
flamber. Oui, tout à fait. Bien. Eh bien, le temps nous manque pour poursuivre sur cette question, mais c'est ce que nous ferons au cours de la prochaine émission, Renaud. Merci beaucoup. Et je te dis à la prochaine fois.
À la prochaine fois, Eric. Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Eric Carlier et Renaud Chartois.